France Inter.
Bonjour à tous. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais il fait partie de votre quotidien. Le géant de la chimie Chemours, anciennement appelé DuPont, une multinationale qui a inventé le nylon, le lycra ou encore le téflon, désormais interdit dans les poêles anti-adhésives. Une entreprise également accusée d'avoir pollué l'environnement aux États-Unis, aux Pays-Bas, mais aussi en France. Bonjour Julie Pietri.
Bonjour.
Vous avez enquêté sur le site français de Chemours à Villers-Saint-Paul, dans l'Oise, une usine qui va fermer ses portes dans quelques semaines.
Secret d'info, Benoît Colombat sur France Inter.
On ne fabrique pas des produits inoffensifs quand même. On sait que des anciens sont malades. Et aujourd'hui, on surveille nos enfants en espérant qu'il n'ait rien. On fait comment si on découvre dans quelques années que ce à quoi on a été exposé ici est très nocif ?
Celui que vous venez d'entendre, c'est un salarié français de l'entreprise Chemours qui va être licencié dans quelques semaines et qui s'inquiète des produits qu'il a manipulés pendant plusieurs années. Un témoignage que nous avons fait lire parce que Julie Pietri, tous les salariés que vous avez rencontrés pour cette enquête, tous ces salariés ont accepté de vous parler, mais à condition que leur nom ne soit pas cité.
Oui, parce qu'ils sont en ce moment en train de négocier leur départ. On ne veut pas être exposé, disent-ils. Pas de bruit, donc, de la discrétion. Alors que l'annonce de la fermeture de l'usine prévue pour cet été a été extrêmement brutale, comme me l'a raconté cet autre employé dont nous avons fait lire les propos.
Quand on nous annonce la fermeture, la première chose qu'on se dit, c'est bizarre. On a même cru à une blague. Ça a été l'ascenseur émotionnel, on a été choqués.
Et ce choc, il est d'autant plus grand pour les salariés qu'ils n'ont rien vu venir.
Oui, parce qu'en fait, il y a encore 2 ans seulement, il n'était pas du tout question de fermeture. Au contraire, le revirement a été spectaculaire. Le 12 janvier 2023, c'est même un grand jour pour Chemours, Petit Four, Champagne. Une bonne nouvelle est annoncée, le site va s'agrandir avec l'embauche de 80 nouveaux salariés. Extrait du journal de France 3 Picardie.
À la une ce soir, dans l'Oise, ce matin, la visite de Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'industrie. À ses côtés, l'américain Chemours qui a officialisé un projet de 186 millions d'euros sur son site de Villers-Saint-Paul pour développer l'hydrogène vert.
De l'hydrogène vert, mais jusqu'ici, Julie, c'était pas du tout la spécialité de Chemours en France.
Non, Chemours s'est installé dans l'Oise en 2002 pour fabriquer des composés chimiques utilisés dans les mousses anti-incendie. Et elle avait d'ailleurs un autre nom à l'époque, DuPont. Et DuPont, c'est un géant de la chimie, une multinationale américaine, mais fondée par un Français, explique Florence Haché-Leroy, historienne des entreprises et des sciences à l'Université d'Artois.
Elle a été créée par M. DuPont de Nemours, qui a fui la Révolution française pour aller s'installer aux États-Unis, d'abord pour produire de la poudre, et il va épouser l'évolution de la chimie. DuPont de Nemours est quand même une entreprise qui a produit dans tous les champs de la chimie, depuis les engrais, les pesticides, les additifs alimentaires, l'emballage, le nylon, les textiles. Enfin, c'est vraiment toute la chimie contemporaine du XXe siècle et puis aujourd'hui du XXIe siècle.
Et quand Chemours annonce son projet hydrogène, cette fois, on l'évoquait à l'instant, l'appui politique est énorme, Julie.
Chemours veut en fait fabriquer une sorte de membrane qui sera juste un maillon dans la production d'hydrogène. Mais oui, Roland Lescure, ministre de l'Industrie, est là, le président de la région Hauts-de-France aussi. Devant la caméra de France 3 Picardie, Xavier Bertrand prédit même un avenir radieux à l'entreprise.
L'hydrogène, c'est à la fois l'énergie, l'avenir, mais c'est aussi l'industrie de l'avenir. Donc c'est des emplois dès aujourd'hui, mais vraiment beaucoup plus d'emplois pour demain, quoi. C'est une région qui se transforme.
État et région promettent alors de sortir leur chéquier. Plusieurs dizaines de millions d'euros d'aides sont annoncées. Elles ne seront finalement jamais versées. Mais à ce moment-là, c'est une belle journée, se souvient Georges Venn, le maire de Villers-Saint-Paul, qui s'était plutôt habitué, lui, ces dernières années, aux plans sociaux qui se sont enchaînés sur la plateforme chimique de la ville.
Cette plateforme, depuis la crise de la chimie des années 80, était un peu en déshérence. On a perdu près de 2500 emplois, ce qui était à l'époque quand même une catastrophe industrielle pour les communes. quitte à passer pour un naïf. Attendez, vous avez là, le ministre qui est là, la direction américaine qui est là, tous les pontes de France et de Navarre qui se félicitent de l'investissement. J'avoue que naïvement, je n'ai pas cherché à aller plus loin. Tout le monde est heureux, et moi j'étais heureux aussi, effectivement, sans savoir que quelques semaines après, ma tristesse allait me gagner à nouveau.
Qu'est-ce qui se passe alors quelques semaines après ?
Le maire, Georges Venne, ouvre son journal, le journal Le Monde. Le 23 février 2023, le quotidien, en collaboration avec 17 autres médias, publie une enquête colossale, une carte d'Europe de la contamination par les polluants éternels, les PFAS. Et Villers-Saint-Paul apparaît sur cette carte. Non seulement une pollution importante a été détectée, mais c'est à cet instant que l'élu raconte avoir compris ce qui était vraiment fabriqué depuis plus de 20 ans sur sa commune, qu'Emours est en fait l'un des 5 producteurs de PFAS de France.
Alors là, Julie, on va faire une parenthèse pour rappeler ce que sont exactement les PFAS.
Ce sont des composés chimiques ultra résistants et donc très séduisants pour l'industrie. Jean-Marc Brignon est ingénieur à l'INERIS, l'Institut national de l'environnement industriels et des risques.
En fait, on s'est tout de suite rendu compte que c'était des produits qui avaient des propriétés remarquables pour résister à plein d'agressions. Et donc, on les a employés pour protéger des matériaux dans plein de domaines. Ça fait quand même depuis l'après-guerre, en fait, que ça va être progressivement, assez rapidement, être utilisé dans toute l'industrie. Le nombre de secteurs qui utilisent ça est énorme.
Les PFAS résistent à l'eau, aux graisses, ils permettent de retarder les feux. Ils sont dans nos emballages alimentaires, nos vêtements, nos téléphones, nos voitures. Mais qui dit ultra résistant, dit aussi très difficile à éliminer de nos corps ou de l'environnement avec des risques peu à peu reconnus pour la santé.
Oui, mais on a entendu le maire de Villers-Saint-Paul qui expliquait ne pas avoir réalisé en fait que des PFAS étaient fabriqués sur sa commune. Ça paraît quand même assez incroyable.
Oui, mais il n'est pas le seul. Écoutez, Alexandre Wizil, sénateur socialiste de l'Oise, est lui aussi élu de Villers-Saint-Paul.
Ils sont arrivés avec les petits fours et le champagne, mais sans nous parler des PFAS. Chez nous, c'est un sujet qui n'est, en tout cas à ma connaissance, hein, je suis élu que depuis 2020, mais qui n'a jamais été mentionné. On découvre le sujet, les risques de cancer, enfin, on découvre tout un tas de choses, quoi. Le sentiment, ça a quand même été celui qu'ils nous ont dissimulé des choses et que cette dissimulation a complètement altéré la relation, c'est vrai, avec l'industriel. Hein.
Et que répond Kemours ?
L'entreprise dément et dit avoir joué la carte de la transparence. Nous avons vu les élus à plusieurs reprises, nous avons présenté nos produits, nous avons dit que c'était des fluoropolymères. Mais il est possible, admet Kemours, que, je cite, « les élus au niveau local n'aient pas suivi tous les développements sur le sujet ».
France Inter, Secret d'info, Benoît Colombat.
Et ce qu'il faut dire aussi, Julie Pietri, pour bien comprendre, c'est que c'est en fait depuis la fin des années 90 que l'entreprise est accusée de pollution au PFAS.
Oui, et la première alerte, elle vient des États-Unis, de Virginie Occidentale. Un fermier, Wilbur Tennant, filme avec sa propre caméra ses vaches qui meurent une à une. Et il capte aussi sur des bandes vidéo l'eau dans laquelle elles s'abreuvent, une eau parsemée de mousse blanche.
Cette eau ne devrait pas ressembler à ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis inquiet pour la santé de ces vaches et tous les vétérinaires que j'appelle à Parkersburg, ils ne me répondent pas. Ils ne veulent pas se mêler de ça.
À l'époque, Kemours s'appelle donc Dupont et Wilbur Tennant vit juste à côté d'une décharge de l'entreprise. C'est le début d'un long combat judiciaire qui va exposer au grand jour la dangerosité des PFAS. Et cette histoire, elle est racontée dans le film Dark Waters de Todd Haynes, extrait de la bande-annonce.
Vous en avez perdu combien ?
190.
Vous avez perdu 190 vaches.
Vous allez pas me dire que c'est normal, vous aussi. C'est les produits chimiques qui font ça.
Chez Dupont, promettre une vie meilleure grâce à la chimie, ça fait partie de notre ADN.
Imaginons que ce qui fait mourir toutes ces vaches, c'est quelque chose qui est dans l'eau du robinet. Dupont a délibérément empoisonné plus de 70 000 citoyens pendant 40 ans.
Dupont sera finalement reconnu coupable d'avoir gravement pollué les eaux de cette région des États-Unis avec un PFAS extrêmement dangereux, le PFOA, cancérogène, aujourd'hui interdit en Europe, et dont l'entreprise connaissait en fait depuis longtemps la toxicité, comme le raconte l'avocat américain Robert Bilott, qui a mené le combat contre Dupont et qui a inspiré le film.
Ce que nous savons, c'est que l'entreprise est devenue au fil du temps très consciente de la toxicité de ce produit chimique, de sa persistance et des risques de cancer. Ce produit peut pénétrer dans le sang, y rester et s'y accumuler. Ça, ils le savaient dès les années 70. Des milliers d'Américains qui avaient des cancers ou d'autres problèmes de santé ont donc commencé à demander réparation à Dupont. Et lorsque nous avons commencé à porter ces affaires devant les tribunaux, c'est là que Dupont a décidé de se séparer de toute son activité liée au PFAS, en la larguant à une toute nouvelle entreprise qu'elle a appelée Chemours.
Et je précise qu'aux États-Unis, Dupont a déjà dû payer près de 690 millions de dollars en réparation.
Mais les ennuis judiciaires continuent même après le changement de nom de l'entreprise.
Effectivement, aux Pays-Bas, une enquête criminelle est ouverte depuis 2023 contre Chemours parce que l'entreprise possède aussi une usine à une trentaine de kilomètres de Rotterdam. Et 2400 riverains ont porté plainte. Écoutez, la sénatrice hollandaise, Lies van Alst, elle s'exprimait sur France Inter le 22 janvier 2024.
Chemours a une assez grande usine à Dordrecht et ils ont pollué ici gravement. Tout autour de l'usine, l'eau est polluée. Les gens ne peuvent plus manger d'œufs ou boire du lait. Tout ça vient de Chemours.
Et ce qu'il faut dire aussi, Julie, c'est que des élus hollandais tentent alors d'alerter les autorités françaises.
Oui, parce qu'ils ont appris que Chemours voulait s'agrandir à Villers-Saint-Paul. Donc, ils écrivent une lettre. Et dans ce courrier à la préfecture de l'Oise, les élus hollandais décrivent cette pollution et ils invitent les autorités françaises à leur rendre visite pour échanger sur le sujet et pour établir une stratégie vis-à-vis de l'entreprise.
Et la préfecture de l'Oise, est-ce qu'elle répond à cette invitation ?
Non, pas de visite jusqu'à aujourd'hui. La préfecture explique qu'elle ne voit dans ce courrier ni alerte, ni mise en garde. Mais à Villers-Saint-Paul, l'inquiétude s'est installée. Un élu de la commune écrit lui aussi à la préfète Catherine Séguin. Voici un extrait des questions qu'il pose dans sa lettre que nous avons fait lire.
Y a-t-il des risques sanitaires encourus par la population de notre bassin de vie ? Ne serait-il pas pertinent de réaliser un nouvel état des lieux concernant la pollution des sols, de l'eau et de l'air sur le site et aux alentours.
Et cette fois, la préfète Catherine Séguin a répondu quelques semaines plus tard. Elle explique que des contrôles se mettent en place et que Chemours est en train de réduire ses rejets de PFAS, on va y revenir. Mais dans ce courrier, elle ajoute une phrase qui nous a intrigués. Écoutez.
Le principal PFAS émis sur le site, dénommé 6,2-FTS, ne figure pas parmi les 20 substances considérées comme préoccupantes pour les eaux destinées à la consommation humaine.
Oui, donc la préfète de l'Oise semble assez rassurante sur ce composé chimique, ce 6,2-FTS, sauf que Julie, 6 mois plus tôt, une autre préfecture a réagi différemment.
Oui, en l'occurrence, la préfecture du Rhône a demandé à un autre industriel, Arkema, de se débarrasser complètement de ce PFAS qu'il rejetait massivement dans le Rhône. On n'avait pas de réglementation sur laquelle nous baser, mais il fallait agir, explique Patrice Lioger, le chef de la DREAL, la direction régionale de l'environnement dans le Rhône.
On est obligé quand même de faire du cas par cas et d'avancer pour protéger la population. Et donc la préfète a pris un arrêté qui est assez strict, qui demandait à Arkema de réduire par palier en fait les rejets de 6,2-FTS dans le Rhône. Le premier palier était de 65% en 6 mois, et puis après il a diminué jusqu'à interdire l'utilisation du 6,2-FTS à fin 2024.
Et dans cet arrêté que prend la préfecture du Rhône, il est noté très clairement que le 6,2-FTS peut avoir des effets sur la santé humaine.
Autorisé dans un département, interdit dans un autre, c'est quand même une situation qui est difficilement compréhensible.
Oui, alors ce 6,2-FTS utilisé dans les mousses anti-incendie, est-il dangereux ? Vous allez voir que chez Chemours, le message passé aux salariés, c'est non, pas de danger, comme nous le dit cette source qui tient à rester discrète.
Le 6.2 FTS n'a aujourd'hui aucune mention de danger significative, c'est-à-dire que le produit n'est pas dangereux. Même si un salarié est exposé, vous arrêtez 2 ans et vous ne retrouverez plus rien dans le corps.
Le 6.2 FTS, pas toxique donc selon Kemours, ce qui fait bondir Pauline Servant, la toxicologue de l'association de défense de l'environnement Génération Future.
C'est complètement faux. Il est toxique pour le foie et pour les reins. C'est d'ailleurs mentionné sur le site de l'Agence européenne des produits chimiques. Il est classé comme tel. Une fois qu'il va être émis dans l'environnement, il va se dégrader en d'autres composés qui, eux, sont particulièrement problématiques. Et en particulier, il y a une substance qui est un produit de dégradation du 6.2 FTS qui s'appelle le PFHXA. Et ce PFHXA, il est extrêmement persistant dans l'environnement. Et en plus, il a été reconnu toxique probable pour la reproduction humaine par l'Agence européenne des produits chimiques.
Oui, donc derrière tous ces composés chimiques, un tableau quand même assez préoccupant. Et est-ce qu'on sait si ces substances, on les retrouve près de la plateforme de Villers-Saint-Paul ?
Oui, complètement. Le 6.2 FTS et le PFHXA sont émis par Kemours, qui le reconnaît d'ailleurs. Et ce sont ces deux PFAS qui ont été retrouvés en plus grande quantité par l'association Génération Future. Quand elle a fait des prélèvements en 2023 dans un filet d'eau qui est rejeté par la plateforme chimique de Villers-Saint-Paul, dans la rivière Oise, on appelle ça l'exutoire. Ça ressemble en fait à une canalisation qui déverse du liquide. J'ai suivi sur place François Veyrette, le porte-parole de l'association, qui m'a raconté comment les tests ont été menés.
On met des bottes, des gants, on se faufile là, le long de la rivière. Alors ça, c'est l'exutoire de la station d'épuration de la plateforme, qui est la station est derrière, on voit il y a un grand bassin circulaire. Dans cette station d'épuration, toutes les entreprises du site mettent leurs eaux qui sont épurées et rejetées dans l'Oise. C'est là aussi où Kemours venait déverser ses effluents. Ça coule quand même, hein, c'est plus qu'un robinet de cuisine, c'est 1, 2, 3 litres à la seconde. Ça fait des volumes quand même. Ce site de Kemours fait partie des sites qu'on appelle top émetteurs, enfin c'est les plus émetteurs. Là, on a déjà trouvé jusqu'à l'exutoire 4000 nanogrammes par litre, ça fait 4 microgrammes et quelques. Ça paraît très peu, mais pour des PFAS, c'est déjà beaucoup. Hein.
Pour vous donner une idée, la rivière Oise est 500 fois plus chargée en PFAS une fois qu'elle a croisé la route de la plateforme chimique, dit Génération Future, qui a porté plainte pour atteinte à l'environnement.
Et là encore, Julie, que répond Kemours à tout ça ?
Que l'entreprise a fortement réduit ses rejets depuis 2022. De 59 kilos de PFAS envoyés vers la station d'épuration de la plateforme, elle dit être passée à moins de 2 kilos en 2024. Des efforts soulignés aussi par la préfecture de l'Oise. Mais il y a quand même une énorme inconnue.
Laquelle ?
Que s'est-il passé avant 2022 ? Qu'est-ce que Kemours a rejeté ? Ça, on ne sait pas. Le directeur du site de Villers-Saint-Paul, Marc Chefson, nous a fait cette réponse très surprenante. Il n'y a eu ni contrôle systématique, ni mesure précise des rejets de PFAS de l'entreprise pendant près de 20 ans.
Il faut savoir que les molécules sont difficilement analysables. Tout le monde ne sait pas faire ce genre d'analyse. Donc, il a fallu trouver les bons organismes, les bonnes mesures. Et après, on a cherché qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc, on a mis des installations en place pour réduire et on voit les résultats. Année après année, on réduit drastiquement nos émissions.
Donc ce qu'on comprend, c'est que pendant 20 ans, l'entreprise n'a pas donné de chiffres sur ses rejets de PFAS, mais est-ce qu'on a quand même des indices sur cette pollution ?
Oui, un exemple. L'un des spécialistes des PFAS en France, c'est Pierre Labadie, directeur de recherche au CNRS et chimiste de l'environnement. Il a identifié Kemours comme une source possible de pollution dès 2015. À ce moment-là, il travaille dans le cadre d'un programme de recherche sur la présence de 6.2 FTS dans la Seine. Et il y a en fait un moment où la Seine et l'Oise se mêlent. Voilà ce qu'il découvre.
À l'aval de la confluence entre la Seine et l'Oise, on voyait une augmentation très nette de la contribution du 6.2 FTS à la concentration totale en PFAS. On a fait l'hypothèse d'une source très importante dans le bassin de l'Oise. On a pensé assez fort qu'il pouvait y avoir un lien avec le site de production dans le bassin de l'Oise. À notre connaissance, il n'y en a qu'un.
Et ce site de production de PFAS, c'est donc Chemours.
Et puis à peu près à la même époque, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, fait aussi des analyses dans la rivière Oise.
Oui, et les chercheurs détectent une quantité impressionnante de PFAS. Dans les études qui ont été publiées, le nom de l'entreprise en cause n'est jamais cité, mais il est question d'une station d'épuration qui traite les rejets d'une usine du nord de la France en bord de rivière qui travaille sur des mousses anti-incendie. Autrement dit, encore une fois, c'est Chemours.
Bien, alors on va s'arrêter là pour le moment, mais surtout restez avec nous. Dans un instant, on va voir que la contamination au PFAS ne s'arrête pas à l'eau. À proximité de l'usine Chemours dans l'Oise, les œufs aussi sont chargés en PFAS. Nice to each other, extrait du prochain album de la londonienne Olivia Dean, qui sera à l'Olympia le 16 juin prochain.
France Inter, secret d'info. Benoît Colombin.
Et retour à notre enquête sur le géant américain de la chimie Chemours, condamné pour ses pratiques aux États-Unis sous le coup d'une enquête aux Pays-Bas et qui s'est donc installé dans l'Oise, à Villers-Saint-Paul, un site français qui va fermer d'ici quelques semaines. On va y revenir alors que les alertes environnementales se multiplient, les abords du site sont pollués, on l'a dit. Et ce que vous avez découvert, Julie Pietri, c'est que cette contamination n'empêche pas des habitants habitants de se baigner régulièrement dans la rivière, pratiquement en face des rejets de la plateforme chimique.
Oui, dès qu'il commence à faire chaud, des riverains étendent leurs serviettes sur l'herbe qui borde l'Oise et ils plongent dans l'eau, ils se baignent. J'ai rencontré Jérémy, 16 ans, et Cyrielle, 30 ans. Ils savent qu'il y a des usines juste à côté, mais ça ne leur pose pas de problème.
Bah, il fait chaud, il y a les chiens, ils ont chaud, on est venu les faire baigner et se baigner au passage, piquer une tête. Il suffit d'être à jour niveau vaccin, etc. et ça risque rien. Je serais déjà malade depuis sinon.
Pour moi, tant qu'on ne boit pas la tasse, qu'on se lave bien en rentrant, je vois pas d'inconvénient. Et comme je le disais, tant que tu es bien à jour sur tes vaccins, moi je pense, voilà. Après oui, c'est un peu... Moi perso, j'aime pas. C'est pas clair, c'est pas transparent. Et puis en plus, si c'est interdit, c'est pas pour rien aussi non plus. Hein.
C'est écrit que c'est interdit?
Ah oui.
Je sais pas, je suis myope.
Et ce qu'on comprend, c'est qu'en tout cas, chez une partie des riverains de la plateforme chimique, il y a comme une forme d'acceptation du risque industriel.
Oui, cette plateforme, elle est là depuis le début du XXe siècle. La ville a grandi avec elle, avec la chimie, bien avant l'arrivée de Kémours Dupont. Sylvain Caron, retraité, 73 ans, est un ancien ouvrier de la plateforme.
Mes parents, ils ont travaillé là, mes frères ont travaillé là, moi j'ai travaillé là. On a fait la résine pour les bateaux, les vernis, on a fait tous les colorants pour le textile, le cuir. Les gens qui travaillaient là-dedans, ils étaient bleus à longueur de journée. Vous mouchez bleu. C'était la vie de ce temps-là. Avant, l'Oise, ça dégazait aussi. Hein. Les vannes, ils ouvraient, bon, ça partait. Pst. Des fois, l'Oise a été couverte d'un mètre de mousse. On ne savait pas d'où ça venait, mais il y avait de la mousse. Bon, il n'y avait pas les écologistes comme maintenant qui surveillaient. La vie était comme ça.
Et quand il dit qu'on se mouchait bleu, c'est parce que les colorants imprégnaient littéralement le corps des ouvriers. Le retraité qui vit toujours près de la plateforme, il prend un autre exemple, les œufs. Ici, ils sont souvent contaminés au PFAS. Et là encore, c'est comme ça, dit-il. Ça n'empêche pas les gens d'ici de les consommer quand même.
Des œufs contaminés. Tout à l'heure, on a justement entendu une élue hollandaise qui expliquait qu'aux Pays-Bas, on ne pouvait plus manger d'œufs autour de l'usine de Kémours.
Oui, et en France, en 2024, pressé par la préfecture de l'Oise, Kémours a fait analyser les œufs des poules élevées par des particuliers autour de la plateforme sur un rayon d'un kilomètre 5 environ. Dans presque 70% des cas, les œufs sont tellement chargés en PFAS qu'ils ne pourraient pas être vendus. Ils dépassent les normes de commercialisation. Isabelle, 56 ans, est vétérinaire à proximité de la plateforme.
C'est le poulailler.
Le taux global de PFAS dans mes œufs était 6 fois supérieur à la norme acceptable.
Est-ce que vous continuez à les manger?
Oui, voilà, c'est un choix. Je ne me voyais pas casser mes œufs et aller en acheter dans le commerce. Je ne me voyais pas non plus trucider mes poules, c'était hors de question. Donc, t'es pas d'accord. Mais oui, si j'avais eu des jeunes enfants, je ne leur aurais pas fait consommer les œufs. Parce que ils sont jeunes, ils ont toute leur défense à construire, toute leur vie à construire. Nous, à notre âge, c'est un petit peu, je pense, différent.
Parce que ce qu'il faut dire, c'est que les enfants sont plus vite exposés à des seuils inquiétants. La limite conseillée pour ces œufs contaminés, c'est 4 par semaine pour une personne de 100 kilos. Mais c'est un œuf par semaine pour un jeune enfant.
Et là-dessus, Julie, que disent les autorités sanitaires?
Eh bien, l'Agence régionale de santé recommande aux habitants de ne pas consommer les œufs à Villers-Saint-Paul et dans une commune toute proche, à Verneuil-en-Alatte. Pareil pour les poissons pêchés dans l'Oise à proximité. Et pour les puits de Villers-Saint-Paul, eh bien, mieux vaut ne pas boire cette eau ni s'en servir pour arroser son potager ou son verger. Mais l'ARS ne va pas jusqu'à établir un lien direct avec Kémours.
Donc on l'a vu, la zone est contaminée au PFAS et Kémours est désormais suivi par les autorités. Mais est-ce que ce sont ces contrôles renforcés qui finalement ont poussé l'entreprise à quitter la France?
Pas du tout, assure la direction qui explique que les choses se sont jouées en fait en deux temps. Le projet hydrogène qui était censé créer des emplois a d'abord été abandonné, le marché ne s'est pas développé comme Kémours l'espérait. Et puis la vieille activité, entre guillemets, la production de PFAS pour les mousses anti-incendie, elle n'avait plus assez de débouchés, selon le directeur de l'usine, Marc Chefson.
En fait, cette usine n'avait plus de clients. Moi, depuis que je suis là, on fait entre 800 tonnes et 1200 tonnes par an. Les prévisions 2025, c'était à peine 400 tonnes. Donc le marché, il était annoncé en baisse, Mais là, les réglementations vont rentrer en application. Et là, maintenant, ça y est, les choses changent drastiquement pour nous.
Mais de quelle réglementation parle-t-il ?
Surtout de la réglementation européenne qui interdit progressivement les PFAS dans les mousses anti-incendie, c'est-à-dire la spécialité de Chemours. Le groupe qui connaissait le calendrier depuis des années dit ne pas avoir réussi à s'adapter et à trouver un produit alternatif sans polluant éternel. Et puis il y a aussi la loi française. Cette année, la mise en place d'une taxe pollueur-payeur a par exemple été votée pour les PFAS. Le député écologiste Nicolas Thierry, qui a porté le texte, dénonce la stratégie de l'entreprise.
Ils arrivent, ils s'installent, ils produisent, ils polluent et ils partent. Quand ils voient que le vent commence à tourner, qu'à un moment ou un autre, ils pourraient être mis à contribution pour dépolluer, eh bien, en fait, ils ferment les sites et ils s'en vont. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je constate. Donc, je pense qu'on est sur des stratégies de prédateurs.
Dans l'Oise, Chemours explique qu'elle ne part pas complètement. L'usine ferme, mais le groupe garde le terrain au cas où le projet hydrogène repartirait, peut-être dans quelques années. Et ça, ça met en colère le président de la communauté d'agglomération de Creil-Sud-Oise, Jean-Claude Villemain, qui ne pense plus qu'à une chose.
Se débarrasser de Chemours. Moi, je souhaite qu'il parte. Je souhaite qu'on puisse accéder au site, qu'on puisse savoir comment et de quoi est pollué ce site. On ne peut pas rester avec une bombe à retardement à proximité de chez nous. Voilà. Vous faites avoir une fois, vous ne faites pas avoir trois fois quand même. Donc je ne souhaite pas qu'ils reviennent.
Et les salariés, ils en disent quoi ?
Ceux que nous avons rencontrés ne misent pas non plus sur une réouverture du site. Ils cherchent pour certains déjà un autre emploi, ils parlent reconversion. Et ils s'inquiètent aussi de ce qu'il y a dans leur sang. Ils disent avoir eux aussi manqué d'informations sur les produits qu'ils manipulaient au quotidien, comme cet ancien employé qui a accepté de nous parler à condition de faire lire son témoignage.
On savait qu'il fallait faire attention aux produits, qu'ils pouvaient causer des brûlures, mais... je n'avais pas conscience que ces produits pouvaient rester dans l'organisme. Je me rappelle d'un homme, quand je suis arrivé, un monsieur qui nous a présenté les caractéristiques des produits, qu'ils repoussent l'eau par exemple, mais sans nous dire les effets sur le corps humain à court ou à long terme. Et je ne comprenais pas grand-chose.
Et aujourd'hui, Julie, ce que vous nous révélez, c'est que des PFAS ont bien été retrouvés dans le sang des employés de Chemours.
Oui, du 6-2 FTS que rejette l'entreprise et du PFOA, ce PFAS classé cancérogène. Mais rien ne prouve que la contamination vient de notre usine, assure le directeur du site de Villers-Saint-Paul, Marc Chefson, qui dit s'appuyer sur les conclusions de la médecine du travail.
On n'identifie pas un poste qui en auraient plus ou moins que les autres. En fait, il y a des anciens qui n'en ont pas beaucoup, il y a des pas anciens qui en ont beaucoup. Et en fait, quand on cherche, on s'aperçoit qu'il y en a dans l'environnement. Les moins anciens avaient une autre vie avant, et potentiellement, c'est là qu'ils ont reçu.
Et donc, ces résultats n'ont déclenché aucune mesure particulière au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, la direction refuse de suivre médicalement ses salariés après la fermeture, en expliquant que c'est, je cite, « trop compliqué à organiser ».
Mais maintenant, au-delà du cas français, Julie, cette entreprise, Chemours ex-Dupont, elle a quand même une histoire particulière hein, quand il s'agit du suivi de ses salariés.
Oui, c'est ce que rappelle le lanceur d'alerte américain, Robert Bilott. Vous vous rappelez, c'est l'avocat qui a inspiré le film Dark Waters.
Dupont a toujours voulu savoir s'il y avait ou non des effets sur la santé de ses travailleurs. Il y a même eu une étude au début des années 60 où des salariés ont dû fumer des cigarettes imprégnées de Teflon pour voir quelles étaient les conséquences. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert que ça pouvait provoquer une sorte de grippe, de la fièvre. Ensuite, lorsque leur sang a été contrôlé avec des études, on a répété encore et encore aux employés qu'il n'y avait aucun problème de santé, qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est une chose de faire des tests, c'en est une autre d'expliquer aux salariés ce que ces résultats veulent vraiment dire, ce qu'ils révèlent sur les potentiels risques pour leur santé.
Alors on va bientôt conclure, et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il n'y a pas que Chemours qui est critiqué sur cette question du suivi de salariés exposés au PFAS.
Oui, à l'autre bout de la France, il y a Solvay à Salindres dans le Gard, une usine productrice de PFAS, là aussi, cette fois du TFA, une usine qui a également annoncé sa fermeture récemment, quelques mois en fait avant Chemours. J'ai rencontré Jean-Pierre Tozzi qui a travaillé plus de 20 ans sur le site et le délégué syndical Cédric Cozot. Ils veulent eux aussi savoir ce qu'ils ont aujourd'hui dans le sang et ils ont leurs raisons.
Il y a 2 ans, en fait, j'ai eu un souci avec mes reins. J'étais hospitalisé. En fait, j'avais les reins qui fonctionnaient à moins de 10%. Il y avait déjà eu les collègues qui avaient leurs enfants qui ont eu des soucis de santé aux reins, notamment. Et forcément, on y pense, parce qu'on sait que le TFA et CPFA, ça s'attaque aux reins. Forcément, je me pose la question.
Pour nous, en fait, les produits, la seule dangerosité, et là, je vais la faire vraiment courte, c'était qu'on se brûle. Ouais. Et même, je vais vous dire, à l'époque, quand il y avait certaines fuites, nos responsables nous disaient d'aller voir où elle était en reniflant. Et en fait, on allait renifler comme des cons. Moi, maintenant, quand je le raconte, j'ai l'impression d'être fou, en fait.
Nous avons contacté la direction de Solvay qui explique que les salariés sont protégés et qu'il ne leur est pas demandé d'aller renifler pour détecter des fuites. Aujourd'hui, la CGT envisage de financer elle-même les prises de sang des salariés de Salindres. Le syndicat réfléchit aussi à des poursuites judiciaires. Dans l'Oise, on n'en est pas là avec Kemours. Les salariés reçoivent juste leur lettre de licenciement.
Merci Julie Pietri pour cette enquête que vous pouvez évidemment retrouver en longueur sur notre site et sur l'appli Radio France avec les dessins de Nicolas De Witt de la cellule Investigation. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission était préparée par Raphaël Canezan et réalisée par Christophe Imbert. À la programmation musicale, il y avait Jean-Baptiste Audibert et à la technique, Frédéric Kiefer. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve samedi prochain.